Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Alors cette semaine, nous voici encore du côté des instruments rares. Joie de la découverte, après avoir écouté la semaine dernière des concertos riches, variés et colorés, pour harmonica, pour marimba, pour guimbarde, eh bien je vous propose de commencer notre nouvelle émission par un concerto pour accordéon et orchestre. Alors vous allez peut-être me dire que l'accordéon, ce n'est pas vraiment un instrument rare. Oui, c'est vrai, mais ce qui est rare, c'est d'écouter un concerto pour accordéon et orchestre. Il n'y en a pas eu beaucoup de composés jusqu'à maintenant, et je crois bien que le premier, c'est celui qu'a composé Jean Wiener en 1957. Alors, il faut quand même que je vous dise quelques mots de Jean Wiener, parce que, vous le savez peut-être, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un peu mon maître spirituel, un génial touche-à-tout, pianiste et compositeur, qui a fait tous les métiers, qui a été pianiste de bar pour Le Bœuf sur le Toit, accompagnateur de films muets, très aimé des auditeurs pour ses courtes et saisissantes improvisations radiophoniques, compositeur étonnant et éclectique, ayant laissé non seulement des musiques pour le concert, mais également plus de 300 musiques de films, dont le fameux « Touchez pas au Grisby » avec Jean Gabin et Lino Ventura, qui a écrit la musique du générique de l'émission « Histoire sans parole » pour le RTF, et qui a inventé les fameux concerts salades, où l'on pouvait découvrir les dernières œuvres de musique contemporaine et du jazz. C'est par exemple au cours d'un des concerts salades que les Parisiens ont pu écouter pour la première fois le célèbre Pierrot Lunaire de Schoenberg. Mais j'en reviens maintenant à mon concerto pour accordéon, dont je vous propose le premier mouvement, une sorte de septième concerto brandebourgeois, mais un concerto brandebourgeois du Faubourg Montmartre.
Thank you.
Nous écoutions le premier mouvement du concerto pour accordéon et orchestre de Jean Wiener. C'était Gilbert Roussel à l'accordéon et l'orchestre était placé sous la direction d'André Girard. Je vous faisais remarquer tout à l'heure que l'accordéon ne pouvait certes pas être considéré comme un instrument rare, mais ce qui était étonnant, ce qui était rare, c'était de l'entendre dans une forme concertante, d'écouter un concerto pour accordéon et orchestre. J'ai un petit peu la même impression en ce qui concerne le saxophone. Le saxophone n'est pas non plus un instrument rare, mais on oublie parfois qu'il a d'abord été un instrument classique avant de devenir l'emblème du jazz. Et en tant qu'instrument classique, pendant la première moitié du XXe siècle, un certain nombre de compositeurs lui ont écrit des œuvres concertantes. Il y a Debussy, par exemple, qui écrit pour le saxophone une rhapsodie pour saxophone et orchestre, mais il y a également Jacques Ibert, un très bon compositeur français, né en 1890, mort en 1962, un compositeur dont j'apprécie beaucoup la musique, qui était aussi officier de marine pendant la Première Guerre mondiale, qui a été Grand Prix de Rome avant de devenir plus tard, pendant une vingtaine d'années, le directeur de la Villa Médicis. Un grand ami d'Arthur Honegger, de Darius Milhaud, et comme Jean Wiener, grand accompagnateur de cinéma muet et compositeur d'une soixantaine de partitions pour le grand écran. Alors nous allons écouter maintenant le final de son concerto de chambre pour saxophone alto et 11 instruments, une œuvre datant de 1935, colorée, joyeuse, à la belle énergie rythmique. C'était le final du concerto de chambre pour saxophone alto et 11 instruments de Jacques Ibert, une œuvre écrite en 1935, interprétée par le saxophoniste britannique John Harle, qui est un très bon saxophoniste, aussi à l'aise dans le classique que dans le jazz. Il a notamment collaboré avec Herbie Hancock et Paul McCartney. Donc interprétée par John Harle et l'Académie de Saint-Martin in the Fields sous la direction de Neville Mariner. Et puisque nous sommes maintenant du côté de l'Angleterre, je vous propose d'enchaîner avec un extrait du concerto pour tuba et orchestre de Ralph Vaughan Williams. Alors je ne sais pas si vous connaissez Vaughan Williams, mais c'est vraiment un très grand compositeur. Un compositeur du XXe siècle, mais un compositeur que je qualifierais pourtant de romantique, qui a étudié avec Maurice Ravel pendant quelques mois. Et un compositeur à la longévité remarquable, qui a décidé à 82 ans, de se mettre à l'écriture d'un concerto pour tuba, et ce n'était pas sa dernière œuvre. Il a encore écrit quelques œuvres vocales et quelques symphonies derrière. Vous allez entendre, dans le second mouvement de son concerto, un tuba qui déploie d'étonnantes qualités lyriques, avec une sonorité douce, ouatée. J'ai presque l'impression d'entendre un instrument aquatique. Alors parmi les nombreuses versions disponibles de ce concerto, j'ai choisi celle du français Thomas Leleux, qui depuis sa victoire de la musique en 2012 est l'un de ceux qui a fait le plus pour populariser le tuba parmi les instruments solistes et qui le fait voyager dans tous les styles et tous les continents. C'était le second mouvement de la romance du concerto pour tuba et orchestre de Vaughan Williams, une douceur tendre et voluptueuse incarnée par le tubiste français Thomas Leleu, accompagné par l'orchestre symphonique de Lara. Lara, c'est un état du Venezuela, sous la direction de Tarcisio Barreto. Toujours en Angleterre, je passe maintenant au concerto pour orgue de Handel. Là encore, l'orgue, ce n'est pas un instrument rare, mais on ne s'attend pas forcément à un concerto pour orgue et orchestre. Alors figurez-vous qu'Handel est considéré comme l'inventeur de ce type de concerto, le concerto pour orgue, et qu'il les écrivait pour les jouer à l'entracte de ses grands oratorios. Et j'imagine, évidemment, ça me fait rêver, un entracte où on ne se contente pas d'aller vite manger un sandwich et de boire un verre de jus d'orange, mais où l'on puisse avoir, pendant un quart d'heure, un petit concerto pour orgue interprété par le compositeur lui-même. Donc Handel composait son oratorio qui était donné en deux parties et à l'entracte, on pouvait le retrouver comme virtuose de l'orgue. Alors ces concertos n'étaient pas écrits pour de grands orgues d'église aux sonorités impressionnantes, mais plutôt pour de petits orgues, des orgues de chambre en quelque sorte, à la sonorité douce et au timbre délicat. Thank you. Voilà, après cette évocation du XVIIIe siècle et des concertos pour orgue de Handel, je vous propose de rester dans le domaine de l'orgue concertant, mais de passer au XXe siècle avec un extrait du concerto pour orgue de Francis Poulenc. C'est une œuvre de 1937, nous allons en écouter le second mouvement, un second mouvement bref, incisif, haletant. Thank you. C'était donc le second mouvement du concerto pour orgue de Francis Poulenc, interprété en soliste par George Malcolm, que nous allons retrouver dans quelques instants jouer du clavecin. Oui, parce que Francis Poulenc ne s'est pas contenté d'écrire un concerto pour orgue, mais également 10 ans plus tôt, en 1928, un concerto pour clavecin. Alors le clavecin, vous pensez bien, au début du XXe siècle, c'était un instrument qui était complètement passé de mode. Songez qu'au XIXe, on n'a même plus fabriqué de clavecin. Et pourtant, au début du XXe siècle, sous l'impulsion de la grande claveciniste polonaise Wanda Landowska, un certain nombre de compositeurs, comme Manuel de Falla ou Poulenc, se mettent à écrire pour le clavecin. Et l'on se remet à fabriquer des clavecins. C'est de cette rencontre entre Wanda Landowska et Poulenc qui est donc né le concerto champêtre qui met le clavecin tellement bien à l'honneur. Je vous propose d'écouter le troisième mouvement de ce concerto champêtre de Francis Poulenc, toujours par George Malcolm, qui troque donc son orgue pour un clavecin. Le 18e siècle, vu par le 20e siècle.
Thank you.
La fin étrange, énigmatique du troisième mouvement du concerto champêtre pour clavecin et orchestre de Francis Poulenc, interprété par le claveciniste, organiste, pianiste, compositeur et chef d'orchestre britannique George Malcolm. Et puisque nous en sommes à parler clavecin, vous avez sûrement déjà entendu parler du concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach. Alors que ce n'est pas du Bach, mais du Vivaldi. Bach a en fait transcrit le concerto pour quatre violons et orchestres qu'il aimait beaucoup, pour quatre clavecins et orchestres. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont eu le bonheur de l'écouter en concert l'ont sûrement plutôt entendu dans une version pour quatre pianos. Pourquoi pas, ça sonne bien. Alors je vous propose maintenant d'aller encore un peu plus loin dans la transcription et de l'écouter dans une version pour huit marimbas. Oui, huit marimbas, vous avez bien entendu. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu audacieux, mais enfin, si on prend l'origine de l'œuvre, déjà, c'est du Vivaldi transcrit par Bach, on passe du violon au clavecin, en concert, aujourd'hui, la plupart du temps, on troque les clavecins pour des pianos, donc pourquoi pas aller plus loin en troquant les pianos pour des marimbas. C'est ce que propose The Wave Quartet dans cet enregistrement virevoltant paru en 2017. Par la magie des transcriptions, nos quatre violons sont donc devenus successivement quatre clavecins, puis quatre pianos et enfin maintenant huit marimbas. Mais la musique, c'était toujours la musique de Vivaldi. Nous écoutions le final de son concerto pour quatre violons, un enregistrement réalisé en 2017 et paru chez Sony. Alors je vous rappelle que notre émission est consacrée aux instruments rares, ou plus exactement aux concertos pour instruments rares et orchestres. Et pourtant, je vais vous proposer maintenant d'écouter un mouvement d'un concerto pour piano et orchestre. Oui, alors je sais, piano et orchestre n'est vraiment pas très original, rien à voir avec les instruments rares. Sauf s'il s'agit d'un concerto pour main gauche et orchestre. Et figurez-vous qu'il y en a eu un certain nombre de concertos pour piano, main gauche et orchestre. Alors tout cela vient d'un pianiste manchot. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le pianiste en question s'appelait Paul Wittgenstein. Il avait perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. C'était le frère du célèbre philosophe. Et il était extrêmement riche. Donc pour pouvoir continuer à jouer du piano, il a profité de sa fortune pour passer commande d'œuvres écrites pour une seule main, la gauche en l'occurrence, à de très nombreux compositeurs. Dont le plus connu est bien sûr Ravel, mais il a également passé commande à Richard Strauss, à Hindemith, à Britten et donc à Prokofiev, qui est le compositeur dont je vous propose d'écouter maintenant un mouvement de son concerto pour la main gauche. C'est son concerto numéro 4. Alors pour la petite histoire, il faut bien dire que Wittgenstein n'a pas été très sympathique avec Prokofiev, puisque quand il a reçu l'œuvre qu'il avait commandée et payée, il lui a simplement répondu « Cher monsieur, je vous remercie pour votre concerto, mais je n'y comprends pas une note, donc je ne le jouerai pas. » Et effectivement, l'œuvre ne sera jouée que 3 ans après la mort du compositeur à Berlin. Il faut dire que l'œuvre n'est pas facile à jouer. Peut-être que Wittgenstein n'en avait tout simplement pas la technique. Thank you. C'était l'extraordinaire énergie du premier mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Serge Prokofiev, concerto dit pour la main gauche, interprété au piano par Alexander Gavriliouk et l'Orchestre symphonique de Sydney sous la direction de Vladimir Askenazy. Alors pour terminer notre émission consacrée au concerto pour instruments rares, je vous propose une rareté particulièrement rare. Vous allez en effet entendre maintenant un mouvement de concerto écrit pour quatre saxophones et orchestre. C'est en 1995, en réponse à une commande du quatuor Rascher, que le célèbre compositeur américain Philip Glass a en effet composé ce concerto pour quatre saxophones et orchestre. Et en plus, il a prévu une version avec orchestre ou sans orchestre. Donc non seulement c'est le premier concerto pour quatuor de saxophone et orchestre de l'histoire de la musique, mais c'est sans doute l'un des premiers concertos que l'on peut jouer à volonté, avec ou sans orchestre. Mais alors, je dois vous dire que moi, je préfère de loin la version avec orchestre, beaucoup plus énergique, plus roboratif. Vous allez voir, c'est du grand Philip Glass. Parfois, il y a dans les dernières œuvres de Philip Glass quelque chose d'un peu trop routinier, d'un peu trop automatique. Ce n'est pas du tout le cas de ce final du concerto pour quatuor de saxophone et orchestre que nous écoutons sans plus tarder, interprété par le quatuor Rascher et l'orchestre de chambre de Stuttgart sous la direction de Dennis Russell Davis. l'univers plus futuriste, plus cinématographique du compositeur américain Philip Glass, dont nous écoutions le final de son concerto pour quatuor de saxophone et orchestre, interprété par le quatuor Rascher et l'orchestre de chambre de Stuttgart, dirigé par Dennis Russell Davis. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec David Delpech et Dorian Segre. Chef opérateur du son, Maxime Ingrand. À la semaine prochaine.